Parler des femmes dans l'armée, vous avez dit que leur place dans l'armée proprement dite, donc sur le terrain, il y avait très peu de femmes. Vous avez parlé des femmes qui protègent les camps. Alors peut-être on pourrait revenir sur ce point, expliquer un peu justement quelle est la place des femmes dans l'armée. Est-ce qu'elles ont des armes? Comment est-ce qu'elles se forment au maniement des armes et quel pouvoir réel elles ont dans l'armée et dans le disons dans la défense armée du peuple sahraoui?
Disons que les femmes sont pratiquement toutes formées aux armes. On leur apprend le maniement des armes légères et elles ne participent pour ainsi dire pas aux opérations. Elles ne vont pas au sud Maroc ou en territoire encore occupé par l'armée marocaine. Ou si elles s'y rendent, c'est en tant qu'infirmières, disons, mais elles ne portent pas les armes. Où elles portent les armes, mais enfin, leur but est de soigner, disons. Et les femmes sont toutes capables de défendre les camps de réfugiés à la moindre alerte. En fait, leur but, c'est de s'occuper de la gestion des camps, d'élever leurs enfants, d'avoir des enfants. Il y a une forte natalité dans les camps de réfugiés. C'est un honneur d'être mère, d'avoir beaucoup d'enfants, parce que de cette façon, on contribue à la force du...
On repeuple la nation.
Voilà, on repeuple la nation. Il y a quand même beaucoup de martyrs. On perd beaucoup de... Les Sahraouis perdent beaucoup d'hommes au combat, malgré tout.
On pourrait parler du rôle des femmes, de la place des femmes dans les structures dirigeantes du Front Polisario. Et je crois qu'elles ont aussi, il y a une union des femmes qui a un pouvoir politique dans le Front Polisario. Alors, parlez-nous un peu de cette union des femmes et de la place des femmes dans les différentes instances politiques. Et on a vu qu'elles avaient une place très importante dans les camps, dans les affaires sociales du camp. Quelle est la place aussi dans la gestion politique de la lutte?
Je crois qu'actuellement, en tout cas, il est très difficile de diviser les choses en compartiments. C'est assez extraordinaire d'être, par exemple, dans un camp de réfugiés sahraoui et de participer à une discussion. Parce que les affaires de gestion, les affaires courantes, en fait, sont importantes, mais il y a toujours un grand apport de discussion politique. C'est assez extraordinaire de voir quand des personnes, femmes, hommes, rentrent par exemple de l'étranger et arrivent dans les camps, les questions pleuvent. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment c'est? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on nous connaît? Etc. Il y a un intérêt, si vous voulez, beaucoup plus élargi que l'intérêt même des camps, qui est très très important. Et les choses sont vraiment toujours discutées et il y a une éducation politique internationale qui se fait en même temps que la gestion des tâches quotidiennes. Alors, les femmes sahraouies sont unies dans l'Union nationale des femmes sahraouies et elles participent de plein droit au bureau politique du Front Polisario. Elles ont un poids. Si en nombre, le poids n'est pas encore celui qui sera plus tard, vu de nouveau le problème de formation, le poids est aussi important parce que c'est vraiment elle qui représente actuellement la structure vraiment de la nation qui continuera après la lutte. Et cette Union nationale des femmes sahraouies a des contacts avec beaucoup d'autres unions de femmes, que ce soit en Afrique et ailleurs. Et d'ailleurs, les femmes sahraouies elles-mêmes voyagent. On en a eu à Genève à deux reprises des femmes sahraouies qui sont venues expliquer leur lutte, leur façon de combattre aujourd'hui. Et les tournées se font à travers le monde entier. Et d'ailleurs, si les femmes sahraouies, elles, n'ont pas leurs propres moyens d'information, de diffusion, il y a un certain nombre de choses publiées au sein même du Front Polisario, mais par les femmes sahraouies, sur les femmes sahraouies. Très peu de choses en français actuellement, mais en arabe, par exemple, il vient de paraître un livre, justement, sur les femmes sahraouies, ce qu'elles font, ce qu'elles sont. Maintenant, sûrement que pour l'Union nationale des femmes sahraouies, tu pourrais compléter.
Donc, l'Union nationale de la femme sahraoui a été créée au cours de son congrès constitutif le 4 avril 1975. Depuis ce moment, le secrétariat national n'a pas été réélu et la secrétaire de cette organisation est automatiquement membre du bureau politique du Front Polisario. Il y a aussi une femme représentée dans les instances dirigeantes de la République arabe sahraoui démocratique, c'est-à-dire dans le Conseil national sahraoui qui est le pouvoir législatif.
Vraiment, je crois qu'il faut peut-être simplement qu'on explique que le rôle de la femme sahraoui aujourd'hui est un rôle tout à fait primordial et très complémentaire, par exemple, de celui des combattants. C'est ce qui se dit très couramment et ça sera l'acquis à garder. Et d'ailleurs, c'est une question qui est revenue souvent lorsqu'on a rencontré des femmes sahraouies, mais enfin, tout cet acquis que vous avez aujourd'hui, comment est-ce que vous allez le garder ensuite, une fois que vous retournerez dans votre pays ? Et parce qu'on a d'autres exemples où justement, cet acquis ensuite a peu à peu disparu. Et elles, alors, sont très fermes aujourd'hui, en tout cas, en disant tous ces acquis que nous avons. Vous savez, la lutte est dure, dure tous les jours, et vous pensez bien que tous ces acquis d'aujourd'hui, nous ne les perdrons pas et nous serons prêts à lutter pour les garder par la suite. Alors évidemment qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais en tout cas dans leur force actuelle et dans leur détermination et dans l'engagement qu'elles ont pris dans cette lutte de libération, on peut être optimiste sur la suite du rôle de la femme sahraoui dans l'État sahraoui.
Oui, par rapport à cette question de comment de l'après-guerre, parce qu'en fait, une situation de guerre, c'est une situation très très particulière qui ça sous-entend une structure sociale, politique et économique très particulière. Et effectivement, on se demande toujours, les femmes qui dans toutes ces guerres de libération jouent un rôle fantastique et primordial. Et souvent, on l'a vu, bon, par exemple, dans la guerre, l'exemple de la femme algérienne est très présent, que elles se retrouvent après avec très peu de choses dans les mains. Alors bon, tu nous dis, ces acquis, elles vont les garder. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont actuellement des moyens réels, c'est-à-dire pas seulement la force dans leur corps et leur tête et leur volonté de garder ces acquis, mais est-ce qu'elles ont les moyens de sauvegarder leur propre autonomie au niveau des moyens des moyens réels qu'elles auront, qui sont à elles et qu'on ne pourrait pas leur enlever. Parce que
la question est de savoir si vraiment elles demandent à avoir des moyens autonomes. Je pense que vous faites allusion, par exemple, à des journaux ou une émission de radio ou des choses comme ça. Il faut dire que chaque fois que les femmes sahraouies sont venues, ont voyagé ici, nous ont parlé, elles ont bien insisté sur le fait qu'elles ne voient pas la lutte en dehors de l'homme, mais elle voit la lutte avec l'homme Et ça, c'est catégorique. Donc, je trouve que dans cette optique, il serait choquant que tout d'un coup, elle nous demande de l'aide ou... Oui, qu'elle nous demande de l'aide pour installer une imprimerie. Ça ne serait pas du tout dans leur optique de lutte, disons. Voilà tout simplement ce qu'on peut dire. Elles ont une organisation, oui.
Donc la technicienne, qui n'a pas de micro parce que son micro ne marche pas, pose la question, mais elles ont une organisation, et qu'est-ce que c'est que cette organisation? Enfin, vous avez parlé de l'Union des femmes sahraouis, c'est une des formes d'organisation. Est-ce que, il y a d'autres formes d'organisation que cette Union des femmes? Ou est-ce que c'est l'organisation des femmes, et quelle est sa force réelle?
C'est la seule organisation féminine qui existe au niveau des camps de réfugiés. Et son but, en fait, est de politiser, de conscientiser les femmes, de les inciter à s'éduquer, enfin à se former, à acquérir même une formation quand cela est possible. Et c'est déjà pas mal, ça leur permet de conserver les acquis qu'elles ont pu gagner au cours de la Révolution, depuis la Révolution.
Ce qui est peut-être parfois difficile à saisir, c'est qu'en fait, ce monde sahraoui, par le fait même de la lutte, est assez partagé, même au niveau lieu de vie, puisqu'il y a un terrain de combat qui se trouve à un endroit, et puis il y a un lieu, les camps de réfugiés, où habitent les populations civiles. Et elle voit vraiment ça comme une complémentarité. Tout le monde ne peut pas être partout à la fois, et actuellement, elles ont vraiment en main, et c'est là que leur pouvoir le plus grand est très très important. Si elles n'avaient pas de pouvoir dans ces camps de réfugiés, mais il n'existerait rien, aucune structure ne pourrait vraiment vivre. Alors, elles sont là, et là, c'est elles aussi qui les gèrent, mais je me souviens d'images, par exemple, vues dans certains films, où on voit des femmes sahraouies avec des prisonniers marocains, où elles sont en train d'expliquer aux prisonniers marocains ce que représente leur lutte. Elles ont vraiment une importance très très importante dans, même là, alors, par rapport à ces prisonniers marocains, où elles ont un rôle de conscientisation de ces gars en leur disant « mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, c'est pas possible vraiment, enfin, on voyait une femme mais s'enflammer en disant « mais je comprends pas que vous veniez nous tuer chez vous, qu'est-ce qui se passe, etc. » Elle avait l'air de connaître, par exemple, sur le Maroc, bien plus que le gars qui arrivait et qui avait été fait prisonnier. Et c'est vraiment, peut-être qu'encore plus à ce niveau-là que dans l'Union nationale des femmes sahraouis, c'est là que son pouvoir actuellement est vraiment réel.
Tu avais signalé aussi le problème de l'argent. Tu disais qu'il n'y a pas de circulation d'argent et que cela est très important. Tu veux peut-être développer un peu.
Les gens sont arrivés là avec parfois un baluchon sur le dos, une petite chose qu'ils avaient pu emmener dans les kilomètres de marche, mais presque rien. Alors, évidemment que déjà chez les nomades, où la richesse, en fait, c'est le cheptel, les troupeaux principalement, eh bien, ils sont arrivés sans rien du tout, donc sans argent. Et actuellement, les Sahraouis, dans les camps, vivent sans argent. Donc, il n'y a pas de pouvoir économique d'une famille sur une autre, de l'homme sur la femme. C'est pour ça, d'ailleurs, que les dots... n'existe pas. Bon, ça a été une volonté politique, mais d'autre part, actuellement, il n'y a pas d'argent. Donc, chacun, si vous voulez, est sur pied d'égalité. Et c'est une des choses aussi qu'il voudrait maintenir, c'est une égalité, au moins répondre aux besoins de chacun.
D'ailleurs, au niveau justement la transformation du rôle de la femme dans la vie quotidienne. Bon, tu as parlé des mariages, tu as parlé du divorce. Est-ce que tu peux parler encore d'autres transformations? Par exemple, bon, c'est un pays islamique, c'est donc musulman. Est-ce qu'il y a la polygamie? Comment est structurée la famille? Et puis bon, j'aimerais aussi revenir plus tard, peut-être au problème justement de l'islam, qui, on le sait, bon, dans les pays arabes, a une force de plus en plus grande et lourde, et qui, par rapport à la femme, a des effets très désastreux, si on pense à l'Iran ou à d'autres pays où les mouvements islamiques fanatiques placent la femme complètement enfermée à la maison.
Bon, disons que la structure familiale est la base de la société sahraoui. Ça, c'est un principe immuable. Concernant l'islam, la religion est appliquée, disons, très souplement. Effectivement, le peuple sahraoui se dit, et l'État sahraoui se définit comme étant un État musulman. Mais on peut dire que les réfugiés sahraouis, enfin le peuple sahraoui, applique les préceptes de l'islam d'une façon très souple. Par exemple, si on va dans les camps de réfugiés en période de Ramadan, de jeûne, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite partie de la population qui fait le jeûne. Contrairement à des pays comme la Tunisie ou l'Algérie ou le Maroc, où on a vu ces dernières années des scènes de lapidation si des personnes ne respectaient pas le Ramadan. Question du voile. Bon, on a toujours associé le port du voile à la religion islamique. En fait, c'est une chose qui est assez distincte de la religion, le port du voile. Mais peut-être que l'islam a encouragé le port du voile dans les autres pays arabes, ce qui n'est pas du tout le cas au Sahara occidental. Les femmes ont un vêtement qui s'appelle la melafa, qui est effectivement une sorte de voile sur la tête et partout, disons, sur le corps, mais elles ne se voilent jamais le visage, sauf en cas de vent de sable.
Oui, vraiment, il y a une question tout à fait pratique. D'ailleurs, quand vous voyez les hommes aussi, ils sont enrubannés complètement. On se demande si les hommes sont aussi voilés là-bas. Mais c'est effectivement à cause des vents de sable qui peuvent être terribles et où les gens se protègent du vent de sable et puis du soleil aussi. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelque chose sur la tête quand on a 50 degrés ou le soleil vraiment qui tape. Ce qui est assez frappant dans l'islam vécu chez les Sahraouis, c'est en fait cet islam qui n'est pas du tout contraignant actuellement. Et je me souviens très bien d'être en Land Rover avec un chauffeur Sahraoui et quelques Sahraouis à la tombée de la nuit, alors que c'était le moment de la prière. Et la Land Rover s'arrête. Ceux qui veulent faire leur prière la font, ceux qui veulent fumer leur cigarette le font. C'est vraiment un acte individuel et pas un acte collectif contraignant. On l'a d'ailleurs vu aussi, même ici à Genève, lorsqu'on avait les femmes sahraouis qui sont venues en tournée, vous avez entendu sur les cassettes ou le disque, eh bien, on pouvait voir dans les chambres où elles habitaient une femme sahraoui qui faisait sa prière et puis les autres en train de se coiffer, de se laver, etc., sans gêne aucune, ni de la part des uns ni de la part des autres. Donc un respect de la croyance de chacun, mais absolument pas une obligation.
On pourrait rajouter encore deux choses peut-être. J'ai oublié de répondre à la question sur la polygamie. En fait, la polygamie est maintenant interdite. Par contre, on trouve encore dans les camps de réfugiés des hommes qui sont mariés à plusieurs femmes. Il s'agit là de mariages qui ont été contractés avant l'exode, donc avant 1975. Et là, c'est une question de choix individuel. Si l'homme veut garder toutes ses femmes, enfin, je pense qu'il n'y en a pas plus que quatre, comme c'est autorisé par le Coran, il le peut. Mais en principe, l'usage de la polygamie a tendance à disparaître. Et il y a une question qu'on a très souvent posée aux femmes sahraouis lorsqu'elles ont fait des tournées en Europe, c'est la question des mutilations sexuelles. Et elles nous répondent que, en fait, c'était une pratique courante, surtout dans le sud du Sahara occidental, du côté de la frontière mauritanienne, et qu'elles ont, je pense par le moyen de campagnes populaires, qu'elles ont vraiment énergiquement combattu contre cette tendance, et qu'à présent, aucune mutilation sexuelle n'est pratiquée au Sahara occidental, enfin, en tout cas dans les camps de réfugiés. Parler peut-être maintenant de la situation actuelle, on peut dire sur le plan militaire que les Marocains sont vraiment dans une impasse. Ils ont construit ce qu'ils appellent le mur de défense qui en fait entoure les centres urbains tels que Smara, El Aaiun, la capitale, et en plus Boukra, le centre des phosphates. Et en fait, c'est une arme à double tranchant, parce que maintenant, elle se retourne contre eux. Résultat, l'armée marocaine est enfermée dans son guet-apens, dans ce mur, Et les Sahraouis lancent de temps en temps des percées dans ce mur et parviennent quand même, comme d'habitude, à faire des prisonniers, à remporter quelques victoires. Bon, il en va différemment sur le plan diplomatique peut-être, en tout cas par rapport à l'organisation de l'unité africaine, qui est pour le moment dans une impasse, qui n'a pas réussi à prendre vraiment une décision énergique par rapport au Sahara occidental, parce qu'elle est en butte à des divisions internes qui sont malgré tout manipulées par les États-Unis. En effet, les États-Unis n'étaient pas très heureux de voir Kadhafi être l'animateur, l'animateur de ce dernier sommet de l'OUA à Tripoli. Et il a tout fait, les États-Unis ont tout fait, donc en exerçant des pressions, du chantage sur les pays africains qui sont alignés sur son rang. Effectivement, ce sommet a échoué, mais c'est peut-être une question de temps. Le prochain sommet aura des conclusions plus positives pour le peuple sahraoui, qui de toute façon n'attend pas les résultats de la scène diplomatique pour remporter petit à petit ses succès militaires.
Quand on parle des États-Unis, bon, tu as parlé du rôle, de l'ingérence diplomatique des États-Unis. Est-ce qu'il y a aussi une aide militaire des États-Unis au Maroc?
Alors, l'aide militaire américaine a augmenté considérablement ces derniers temps. Vraiment, l'armement américain, qui a toujours été assez important, mais est devenu de plus en plus important encore, vu que la France a quand même pris un petit peu de recul depuis un certain temps par rapport à ce problème. Et alors, Hassan II a cherché de l'aide auprès de Washington, qu'il a eu absolument immédiatement. Bon, Reagan aurait voulu lui en donner encore plus, mais le Congrès américain n'a pas voulu le suivre jusqu'au bout, se disant que ça pourrait se retourner contre eux aussi. Mais actuellement, l'aide américaine au Maroc est quelque chose de fabuleux. Les Marocains avaient à un certain moment essayé de sortir un peu de l'emprise américaine en ne donnant plus de bases américaines, plus de bases militaires aux Américains, par exemple. Et bien sûr que devant cette demande d'armement faite par Hassan II à l'Amérique, les Américains ont dit, nous voulons de nouveau des bases américaines au Maroc. Et c'est ce qui est en train de se faire. Les États-Unis vont avoir des nouveaux ponts militaires au Maroc. Ils en ont perdu ailleurs. Et c'est important dans ce problème-là, mais c'est important aussi pour tout le reste de l'Afrique et pour le Moyen-Orient. Et actuellement, s'il y a une influence néfaste en Afrique et qui permet de voir peut-être l'avenir du continent africain avec assez de pessimisme, c'est l'influence américaine qui a lieu sur le continent africain. Et par rapport au problème du Sahara, le Maroc se trouve de nouveau surarmé et avec des moyens absolument sophistiqués. Et essaye dans le désert actuellement des bombes à fragmentation. On sait pourtant que c'est interdit internationalement, mais enfin ça ne les gêne pas et ils y vont. Il y a un échange aussi au niveau des conseillers militaires américains auprès des Marocains très important. Une formation militaire de chefs Marocain aux États-Unis. Enfin, il y a vraiment actuellement une mainmise américaine très très importante, d'autant plus que la République sahraoui tient une place très importante géographiquement. Enfin, elle se trouve, les Canaries sont juste en face. Si cette partie du monde devenait progressiste, eh bien, les Américains, effectivement, ne voient pas ça d'un bon œil. Et pour lui, c'est en fait un bastion qu'il pouvait contrôler, qui s'en irait, et une autre zone d'influence qui s'établirait. Et ça, il n'en veut pas. À ce niveau-là, je crois qu'il est bon de dire que le conflit sahraoui n'est pas un conflit est-ouest directement, parce qu'on sait aussi que le Maroc a des contrats avec l'URSS. Et les Sahraouis alors désirent absolument être des non-alignés, ne pas être sous une coupe ou sous l'autre. Mais je crois que ça vient aussi de leur tradition culturelle nomade et de leur besoin vraiment viscéral d'être indépendant, vraiment, qu'ils optent pour le non-alignement.
Et quel est le rôle, quelle est l'influence de l'Algérie ? Bon, les camps sont situés en Algérie. L'Algérie a aidé depuis le départ le peuple sahraoui. Comment se sent l'influence algérienne ?
Je ne sais pas si on peut parler d'influence algérienne. En fait, le premier pays qui a aidé les Sahraouis, c'est la Libye. On a tendance à l'oublier. Elle continue toujours à l'aider, au même titre que l'Algérie. L'Algérie, on pourrait dire qu'elle est très sensibilisée par le combat pour l'indépendance que mènent les Sahraouis, parce qu'elle a connu exactement la même histoire. Peut-être beaucoup plus dramatique, parce que c'est quand même des millions de gens qui sont morts durant la guerre. Et je crois qu'au simple titre de la solidarité internationale, l'Algérie s'est fixée pour devoir d'aider jusqu'au bout les Sahraouis. Bon, des mauvaises langues diront que l'Algérie a un intérêt stratégique ou économique sur le Sahara occidental, qu'elle veut s'arroger un passage sur l'Atlantique, que si, que ça. Mais ma foi, ça c'est du ressort des Sahraouis une fois qu'ils seront indépendants. C'est de leur libre choix de commercer avec les Algériens et les Marocains ainsi que les Mauritaniens s'ils le désirent une fois qu'ils seront indépendants.
مغلولة جيران ما عاولنا ولاقات من كتنا دولة ولاقات متنا فدنا ماقات من كتنا دولة ولاقات متنا فدفا لبلاد صنع حرمته لبلاد صنع حرمته من مجد لبسنا ولا قادر ستلبسته في نهار ما جددنا ما قادر شات ما نفذنا نقاط عادت رجلتنا لعداينا سلبنا ولقاط قالت دولتنا يا شاع ما نفدنا نقاط قالت دولتنا يا شاع ما نفدنا نقاط صبحتنا غلولة نقاط صبحتنا قلولة جيران ما عاولنا لقاط ملكتنا دولة ولقاطتنا بدلة نقاط ملكتنا دولة
peut-être ajouter encore un mot et parler de la majorité du peuple sahraoui qui vit dans les zones occupées. Donc ces centres urbains comme El Aaiun, la capitale, Smara et Dakhla principalement, qui sont encore sous le joug de l'armée marocaine. Depuis 1975, quand l'armée marocaine et mauritanienne ont envahi le Sahara occidental, elles ont emprisonné et tué également beaucoup de civils sahraouis. Un bon nombre d'entre eux sont encore dans des prisons au Maroc. Je crois qu'on pourrait donner peut-être un témoignage de cette répression dans les zones occupées.
Les femmes qui ont échappé aux villes, occupées par les Marocains à l'aide du Front Polisario racontent ce qu'elles ont dû subir en tant que population civile là-bas. Il y a plusieurs témoignages qui se recoupent. Il y en a certains types du genre. Effectivement, beaucoup de femmes et d'enfants sont morts en voulant rejoindre le Front Polisario et les campements de réfugiés. Les Marocains ont tiré sur eux pour les empêcher de rejoindre le Front Polisario. Certes, nous avons ressenti de la douleur en quittant nos foyers, nos biens, mais nous y étions contraints car l'occupant marocain ne nous permet pas de vivre et nous ne voulons pas vivre sous l'occupation marocaine. Dès que nous avons vu les combattants de la LPS, nous avons essayé de les rejoindre faisant fi de l'adversaire. Nous préférons vivre avec nos frères, où qu'ils soient, que de subir l'occupation. Nous souffrons évidemment et voudrions retourner dans notre patrie, mais une patrie libre et indépendante. Une autre femme raconte. Elle a 35 ans, 4 enfants, son mari est parti dans la Révolution. En plus du problème de mes enfants à élever, j'avais aussi avec moi mes deux parents qu'il fallait nourrir. Lorsque j'ai réclamé mes deux enfants aux Marocains, ils m'ont dit que je ne pouvais me débrouiller toute seule, que je ne pouvais travailler car j'avais un âne que je pouvais utiliser pour vendre de l'eau, ce qui me permettait tout juste de nourrir ma famille. C'était un travail très dur. Il fallait chercher de l'eau à 3 km de Smara. Les Marocains nous empêchaient de travailler. Par exemple, ils enlevaient le bois que la femme avait récolté pour allumer son feu et chauffer sa famille en disant qu'elle n'avait pas à prendre ce bois-là. Quand elle demandait du travail, ils le lui refusaient. Quand elle trouvait de la farine pour faire son pain, elle devait encore payer un dirham pour le faire cuire dans le four public. Souvent, on ne nous rendait même pas le pain et on nous renvoyait brutalement en disant qu'on avait suffisamment volé du pain. Nos enfants ne pouvaient pas aller à l'école, elle n'existait pas. Mais on voulait nous forcer d'envoyer nos enfants à l'école au Maroc. Nous disions que nous n'avions pas d'enfants et les cachions. Mais les enfants nous ont été enlevés de force.
Bien, vous faites partie du comité de soutien au peuple sahraoui. Vous pouvez peut-être nous parler de ce comité et de la solidarité que des femmes en Suisse, à Genève, en France, peuvent avoir avec le peuple sahraoui, avec les femmes du peuple sahraoui.
Alors, pour prendre la fin de la question avant de l'oublier, je crois que la solidarité avec les femmes sahraouies peut s'exprimer comme de la solidarité avec le peuple sahraoui entier, parce qu'en fait, ce que les sahraouis ont besoin, surtout maintenant à la veille de l'hiver, c'est de vêtements chauds, de couvertures, on a aussi besoin d'argent pour permettre d'acheter de la nourriture, de la superamine, enfin tout ce qu'on peut fournir dans un camp de réfugiés. Et pour cela, on peut simplement s'adresser au comité de soutien au peuple sahraoui. On édite régulièrement un bulletin où on tient au courant les lecteurs de l'aide que nous fournissons aux réfugiés sahraouis. Il n'y a pas seulement l'aide humanitaire, il y a aussi l'aide, disons, sous forme d'informations que l'on peut faire en Suisse. On peut, au moyen de fait, informer la population de ce qui se passe au Sahara occidental, au moyen de films, comme nous allons le faire le 10 décembre au Centre social protestant. Et c'est un moyen qui est très précieux aussi aux Sahraouis. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose.
Oui, en fait, les deux buts de notre comité sont l'information principalement et l'aide humanitaire. Évidemment, nos moyens ne nous permettent pas de soutenir une grande partie de la population, mais ce qui est très très important pour les Sahraouis, peut-être plus que l'aide humanitaire qui mal en bon an arrive, c'est l'information sur leur lutte, qu'ils estiment juste et tout à fait indiscutable. Et je crois que ça, c'est à partir de là, l'aide humanitaire arrive quand les gens se sont vraiment informés, ont été conscients de ce que ça représente, ce tout petit peuple qui se bat contre des forces énormes parce que simplement il ne veut pas être dépendant.
Qu'en est-il de l'aide militaire ? Bon, je pose cette question parce que je sais qu'il y a eu, par exemple, des récoltes d'argent pour donner des armes en Amérique latine. Donc en Suisse, il y a eu, et en Allemagne, il y a eu toute une campagne pour amasser de l'argent pour acheter des armes pour la guérilla salvadorienne ou d'autres guérillas en Amérique latine. Est-ce qu'il y a des soutiens aussi pour armer le peuple sahraoui ?
Ce soutien ne relève en fait pas de la compétence des comités de soutien ou des organisations humanitaires qui aident le peuple sahraoui. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple sahraoui, enfin la République arabe sahraoui démocratique, qui a été créée, qui a été fondée le 27 février 1976 dans les territoires libérés, a été reconnue jusqu'à présent par 53 pays. Et tous ces pays fournissent à leur façon, dans la mesure de leurs moyens, une aide. Et parmi ces pays, il y en a quelques-uns qui fournissent de l'aide humanitaire, d'autres de l'aide militaire. Ça, c'est du ressort des Sahraouis et de ces pays-là.
Il ne faut pas oublier d'ajouter que la majorité de l'armement des Sahraouis et de leur matériel militaire provient de récupération. Ça, c'est une chose que l'on voit chaque fois que l'on visite les camps. Il y a des lignes et des lignes et des lignes de fusils récupérés, d'armement, de mitraillettes, de tout ce qu'on peut imaginer, de tanks, même d'avions, évidemment, malheureusement pas récupérables, mais qu'ils se débrouillent fort bien pour trouver le matériel nécessaire.
Dans la solidarité qu'on essaye d'avoir avec le peuple sahraoui, une chose importante, c'est qu'en fait, partout où un peuple ou quelqu'un ou un groupe essaye de se libérer, c'est en fait aussi une partie de notre liberté qui est garantie et qui est en jeu. Et ici aussi, quand il y a des mouvements pour plus de justice, pour une libération, c'est aussi une partie de liberté qu'on tient à conserver et à garantir.